إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا ربكم الذي يحيي العظام وهي رميم واخشوا يوما تعرضون فيه عليه لا تخفى منكم خافية يوم يحصل ما في الصدور ويكون الناس إلى جنة وتكريم أو نار تستعر وتعذيب حيث قال تعالى آمرا لكم ومرهبا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اعلموا أن من تقواه وخشيته جل وعلا المبادرة إلى حج بيته الحرام امتثالا لأمره وتعظيما له وإحسانا لأنفسكم ورفعة لدرجاتكم وأداء لما وجب عليكم فإنه سبحانه قد أوجب عليكم الحج وفرضه في كتابه العزيز فقال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وصح أن نبيكم صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في الناس فقال لهم أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا إلا وإن من دلائل تكريمه سبحانه لكم ورحمته الشديدة بكم وإفضاله لكم وإنعامه عليكم في باب الحج إلى بيته الحرام هذه الأمور السبعة الأول أن الله جل وعلا قد جعل فريضة الحج إلى بيته الحرام إحدى الدعائم الخمسة التي بني عليها دينه الإسلام حيث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والثاني أن الله تبارك وتقدس لم يوجب الحج عليكم في العمر كله إلا مرة واحدة رحمة بكم وتخفيفا عليكم حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى جعل الحج من أسباب مغفرة الذنوب الكثيرة حيث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه، والرفث معناه الجماع في حال الإحرام ومقدماته من مباشرات للنساء أو تقبيل أو نظر بشهوة أو استمناء وغير ذلك. والنطق بفاحش الكلام وقبيحه، كل هذا داخل في معنى الرفث. ومعنى الفسوق يشمل المعاصي كلها، معاصي القلب ومعاصي اللسان ومعاصي الجوارح، من أيد وأقدام وعيون وآذان وفروج وغيرها. وثبت عن شقيق ابن سلمة رحمه الله أنه قال: أردت الحج فسألت ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن تكن نيتك صادقة وأصل نفقتك طيبة وصرف عنك الشيطان حتى تفرغ من عقد حجك، عدت من سيئاتك كيوم ولدتك أمك. الأمر الرابع أن الله عز وجل جعل الحج المبرور من أعظم أسباب دخول الجنة والتنعم بما فيها من خيرات حسان، حيث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج الذي ليس فيه ما يبطله من محظورات الإحرام ولا ينقص ثوابه من فعل محظورات أو ذنوب قولية أو فعلية أو قلبية. الأمر الخامس أن الله سبحانه جعل الحج من أسباب العتق من النار، حيث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. الأمر السادس أن الله جل وعلا جعل الحج من أحسن وأجمل الجهاد في سبيل الله، حيث صح أن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا نجاهد معك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أحسن الجهاد وأجمله، الحج حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج أبدا بعد أن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع أن الله تعالى جعل متابعة الحج والعمرة من أسباب سعة الرزق وذهاب الفقر ومحو الذنوب وتكفيرها، حيث ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فما نريد معشر المسلمين بعد هذا الفضل من فضل، وبعد هذا الإكرام من إكرام، وبعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا على عباده المؤمنين: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فماذا ينتظر من لم يحج فريضته بعدما سمع ما تقدم من الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة؟ أينتظر أن يفجأه الموت وهو لم يؤدي فريضته بعد؟ أم ينتظر حتى يبتلى بمرض أو كبر فيقعدانه عن الحج؟ أو ينتظر الفقر والحاجة بعد وجود النفقة والمال؟ ألم يسمع قول ربه جل وعلا آمرا مرغبا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وامتثال أمر الله بالمسارعة إلى المغفرة والجنة إنما تكون بالمبادرة والعجلة إلى فعل الطاعات من فرائض ومستحبات قبل نزول الموت وحصول ما يعوق من مرض أو كبر أو حبس أو فتن أو حروب أو فقر أو غير ذلك. ألم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا مرهبا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وثبت عن غنيم بن قيس رحمه الله أنه قال مبينا لنا حال سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين مع نصح بعضهم لبعض: كنا نتواعظ في أول الإسلام بأربع، كنا نقول: اعمل في شبابك لكبرك، واعمل في فراغك لشغلك، واعمل في صحتك لسقمك، واعمل في حياتك لموتك. واحذروا عباد الله من التكاسل عن أداء فريضة الحج مع وجود الصحة والعافية وحصول الميسرة في الرزق وتوفر الأمن في الطريق والمناسك. فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يمت يهوديا أو نصرانيا رجل مات ولم يحج، وجد لذلك سعة وخليت سبيله لحجة أحجها وأنا صرورة أحب إلي من ست غزوات أو سبع. والصرورة هو الذي لم يحج حجة الفريضة بعد. وثبت عن الأسود بن يزيد رحمه الله أنه قال لرجل من قومه موسر قادر على الحج: لو مت ولم تحج لم أصلي عليك. وثبت عن عبد الله بن معقل رحمه الله أنه سئل عن رجل مات ولم يحج وهو موسر، فقال: مات وهو لله عاص. وثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج لم أصلي عليه. وذهب أكثر العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن الحج واجب على المكلف على الفور إذا توفرت الاستطاعة، ومن أخره عصى وأثم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah, préservez-vous de son châtiment au jour de la résurrection, car votre Seigneur va vous ressusciter, il va faire ressusciter les morts, alors qu'ils sont décomposés dans la terre, que leurs ossements sont décomposés dans la terre, ainsi que leur chair et leurs os et leurs veines, leur cerveau, tout est décomposé dans la terre. Mangé par les insectes, par les vers. Et puis Allah Azza wa Jal va ordonner à son ange de souffler le clairon et le jugement va être lancé. Les corps vont être ressuscités. Les corps qui sont décomposés dans la terre vont se refaire, vont se recomposer. Et tous les hommes vont sortir de la terre comme des fourmis pour se tenir devant Allah Azza wa Jal pour attendre leur jugement et leur compte. Et donc c'est un jour important, un jour sévère, un jour effrayant pour les croyants et encore plus pour les mécréants. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de se préparer pour ce jour-là en faisant des bonnes œuvres, en faisant ce qui est ordonné et en s'écartant de ce qui nous a été interdit. Et en demandant pardon à Allah Azzawajal pour les manquements, pour les fautes et pour les péchés qu'on a pu commettre. Parce que tous les fils d'Adam peuvent faire des péchés et désobéir à Allah Azzawajal, mais Allah est pardonneur. Sachez, serviteurs d'Allah, que Allah Azzawajal a légiféré parmi les actes d'obligation le fait de faire le hajj, le fait de faire le hajj et la umrah à sa maison sacrée, qui est la Kaaba. Et il a ordonné cela aux hommes dans le Coran. Et il a dit, « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » Les hommes ont l'obligation pour Allah de faire le hajj à la maison d'Allah Azza wa Jal qui est la Kaaba, pour celui qui a la capacité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, a mentionné l'obligation du hajj. Il a dit, « Oh vous les hommes, faites le hajj. Allah vous a ordonné le hajj, alors faites le hajj. » Et Allah Azza wa Jal a légiféré par rapport au hajj des points importants pour nous rappeler à quel point il faut se précipiter et se dépêcher à accomplir cette obligation-là une fois qu'on a rempli les conditions. Et parmi les points, il y en a 7 en particulier qu'on va essayer de rappeler rapidement. Le premier point, c'est que Allah Azza wa Jal a fait du hajj un des 5 parmi les 5 piliers de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith authentique que l'islam a été bâti sur 5 piliers. Et il a mentionné le premier pilier qui est « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et ensuite, il a mentionné le fait d'établir la salat. Et ensuite, de donner la zakat et de faire le hajj pour celui qui a la capacité et de faire le jeûne du ramadan. Donc ça, c'est les 5 piliers. C'est les 5 fondements sur lesquels tout le reste est établi. Donc, c'est très important pour nous. Deuxièmement, il faut savoir que le hajj a seulement été ordonné pour les musulmans une fois durant leur vie. Donc, si tu accomplis ton hajj une fois, eh bien, tu n'as pas besoin de le refaire encore. Hein? Mais si tu désires le faire plusieurs fois, eh bien, ce sera calculé comme un acte de tatawwu, c'est-à-dire comme un acte volontaire que tu fais pour augmenter tes hasanat. Ou bien des fois, par exemple, si quelqu'un il a accompli son hajj, mais qu'il considère ou il ressent que dans son hajj, il a peut-être fait des fautes ou que peut-être il ne l'a pas fait comme il devrait, eh bien, il peut essayer d'en faire un autre pour essayer de réparer les erreurs ou les manquements qu'il a pu avoir dans son hajj qu'il a fait. Et si quelqu'un, par exemple, il a amené avec lui un enfant pour faire le hajj. Lorsqu'il est parti faire le hajj, il a amené ses enfants avec lui et que ses enfants ne sont pas encore pubères. Eh bien, la récompense de ces enfants-là va aller à leurs parents. Sauf que eux, lorsqu'ils vont atteindre la puberté, eh bien, il va être obligatoire pour eux de faire le hajj à nouveau. Parce que le hajj obligatoire, il est seulement compté comme étant un hajj obligatoire à partir de la puberté. Et si tu l'as fait avant la puberté, eh bien, ça ne va pas compter comme le hajj de l'islam. Il va falloir le refaire après la puberté. Et donc, une seule fois durant la vie. Parmi les points importants également, le troisième point, c'est que le hajj, c'est une des causes parmi les causes pour que Allah Azza wa Jal pardonne nos péchés et efface nos fautes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a mentionné à ce sujet-là que quiconque part faire le hajj, eh bien, il va revenir comme le jour dans lequel sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire qu'il revient purifié de ses péchés. Et il y a peu de choses comme ça qui permet à un musulman de nettoyer son compte et de revenir à zéro, si on veut, de remettre les compteurs à zéro. Parmi les points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qui peuvent faire ça, il y a le fait de se convertir à l'islam. Donc si quelqu'un s'est converti à l'islam, il revient comme le jour de sa naissance, tous ses péchés sont effacés. Un autre point, c'est le hajj. Parmi les points qui effacent tous les péchés précédents, il y a le fait d'accomplir le hajj. Et il y a également de faire la hijra, c'est-à-dire de quitter une terre de kufr pour aller dans un pays de l'islam. Celui qui fait ça, il fait ça avec l'intention de sauver sa religion, de se préserver dans sa foi. Il redevient comme le jour que sa mère l'a mis au monde. Donc ça aussi, la hijra, c'est une chose qui fait partie de ces exemples-là. Et donc, pour que tu puisses obtenir cette récompense-là par rapport au hajj, eh bien, il faut le faire sans commettre de fautes, comme par exemple al-rafath, c'est-à-dire de tout ce qui a rapport avec les relations intimes entre un homme et une femme. Tu dois t'éloigner de toutes ces choses-là. Et tu dois t'éloigner également de tout ce qui est péché, que ce soit les péchés du cœur, de la langue et des membres de ton corps. Et également, bien entendu, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقْ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran. Ne dois pas commencer à débattre ou disputer avec les gens, hein, perdre ton temps pendant le hajj. Concentre-toi sur l'adoration. Et si tu fais ça, eh bien, tu reviens de ton hajj comme si tu venais de naître. Quatrièmement, il y a aussi, comme on vient de le mentionner, quelque chose qui est un peu relié directement à ce sujet-là, c'est al-hajj al-mabrour. Al-hajj al-mabrour, c'est un hajj qui a été fait avec toutes les conditions et qui a été fait avec toutes les règles et qui n'a pas de contradiction avec les principes de l'islam dedans. Donc, si tu le fais de cette façon, eh bien, la récompense pour ça, c'est seulement le paradis. C'est-à-dire que c'est une cause pour que tu puisses rentrer au paradis. Donc, non seulement ça efface tes péchés, mais en même temps, ça ouvre une porte pour toi pour que tu puisses rentrer au paradis. Cinquièmement, celui qui fait le hajj, il est sauvé de l'enfer. Puisque dans le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y avait un jour, et ce jour-là, c'est le jour le plus important dans le hajj, c'est le jour de Arafat. D'ailleurs, c'est le pilier le plus important du hajj. Celui qui manque Arafat, il a manqué le hajj. Donc, ce jour-là, Allah Azzawajal libère beaucoup de ses serviteurs de l'enfer. Et donc ça fait partie des causes, si tu veux te sauver de l'enfer, de faire ton hajj. Parmi les points également, le sixième, c'est que pour celui qui accomplit le hajj, c'est comme s'il avait fait un parmi les différentes formes de jihad. Une parmi les différentes formes de jihad fi sabilillah. Et en particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que c'était le jihad des femmes. Parce que des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont posé la question au messager d'Allah, est-ce qu'on ne peut pas combattre avec toi ou partir au combat avec toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a un djihad pour vous les femmes et c'est le hajj. Donc le djihad pour les femmes, c'est d'accomplir le hajj. Parmi les points importants également, le septième, c'est le fait d'accomplir plusieurs fois le hajj, eh bien, ça fait augmenter ton risque. Augmenter ton risque et également, ça élimine la pauvreté. Donc, les gens, parfois, ils ont l'idée que s'ils dépensent de leur argent pour Allah, que ça les rend pauvres. Non, au contraire. Si tu dépenses de ton argent pour Allah, Azza wa Jal, eh bien, ça va augmenter ton risque. Et Allah, Azza wa Jal, va t'ouvrir des portes de subsistance. Peut-être tu ne les aurais pas ouvertes si tu n'aurais pas fait ces dépenses pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Donc, ne craignez pas la pauvreté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que si, par exemple, vous savez que le hajj maintenant, il est cher, en particulier si on part d'ici, eh bien, vous devez faire, par exemple, une caisse dans laquelle vous mettez vos économies à chaque mois. Vous mettez un montant pour essayer d'accumuler la somme nécessaire pour pouvoir faire votre hajj. Et donc, vous dites, par exemple, moi, l'année prochaine, je veux faire le hajj, je veux me faire une caisse, et à chaque mois, par exemple, vous mettez un montant pour essayer d'économiser jusqu'à temps que vous ayez accumulé la somme nécessaire. Et puis, après, vous faites votre intention, et puis vous prenez votre visa et vous faites les démarches pour pouvoir faire votre hajj. Donc, ça, c'est très, très important. Parce que les gens, par exemple, ils remettent toujours à plus tard. Ils disent, oh non, je vais le faire plus tard. Je vais le faire plus tard. Je suis encore jeune. Et quand ils entendent le hadith qui mentionne la récompense du fait que ça efface tes péchés et que ça te fait revenir comme le jour de ta naissance, eh bien, ils disent, bon, je vais attendre à la fin. Quand je vais être très, très vieux, comme ça, je vais remettre mes pages à neuf et je vais pouvoir entrer au paradis. Sauf que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Ça veut pas, tu ne sais pas si tu vas vivre jusqu'à ce que tu deviennes vieux. Peut-être que tu vas vivre seulement jusqu'à l'année prochaine. Hein? Donc, prépare-toi depuis maintenant pour faire ton hajj tout de suite. N'attends pas à plus tard. Et une chose aussi que les gens ignorent peut-être, s'ils n'ont pas fait le hajj, c'est que le hajj, c'est une adoration qui est très physique, qui est très exigeante physiquement. Ça demande énormément de force et d'énergie. Et si quelqu'un n'est pas en forme, si quelqu'un n'est pas physiquement fort, il risque peut-être même d'arriver là-bas. Puis, il y en a des gens qui sont partis au hajj et ils meurent dans le hajj, tellement ils sont épuisés ou fatigués. Ou peut-être même tu peux te faire piétiner des fois par des gens, tellement il y a des quantités de monde inimaginables. Hein? C'est des millions de personnes réunies en même temps. Donc, des fois, il peut y arriver toutes sortes de choses. Et c'est pourquoi c'est important d'y aller alors que tu es en forme physique et non pas d'attendre que tu deviennes très fatigué ou vieux, hein, âgé, que tu n'aies plus l'énergie et la force nécessaire pour être capable de le faire. Donc ça, c'est une erreur que certains font, de retarder le hajj alors qu'ils ont l'argent, alors qu'ils ont la santé, alors qu'ils ont tous les moyens pour le faire et ils attendent. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas tomber malade. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas perdre tout ce que tu possèdes s'il t'arrive un malheur quelconque. Tu ne sais pas quand il va y arriver une guerre qui va faire en sorte que tu ne vas plus pouvoir partir. Hein? Donc, comme on a vu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, en ce moment? Toutes sortes de problèmes de fitan et de troubles dans le monde. Aujourd'hui, hein, on vit à l'aise. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Il y a des choses, des fois, le monde peut basculer d'un seul coup. Et on ne sait même pas. Hein? J'écoutais l'autre jour un reportage qui parlait de la communauté italienne. Quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale, hein? Tous les gens qui étaient à Montréal, qui étaient d'origine italienne, ils les prenaient, ils les mettaient dans des camps de concentration. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient qu'ils avaient des affiliations avec Mussolini. Et donc, ils considéraient que ces gens-là, c'était peut-être une menace. Hein? Donc, ils les prennent et les enferment. Quand il y avait les Japonais, la même chose, ils ont fait avec les Japonais pendant la guerre. Ils les ont pris, ils les ont mis dans des camps de concentration. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ils sont des Japonais et ils sont en guerre contre nous, on va les enfermer pour éviter, si jamais ils veulent faire des choses contre nous. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être c'est nous, demain, qui vont être dans des camps de concentration pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, tout va bien. Et vous voyez la vie est belle. Hein? Mais vous ne savez pas comment, d'un jour à l'autre, tout peut basculer. Tout ce que vous avez aujourd'hui, hein, en un clin d'œil, tout ça change. Votre situation, votre sécurité, votre état, aujourd'hui, c'est pourquoi il faut être reconnaissant envers Allah. Il faut reconnaître les grâces d'Allah et le bien qu'il nous donne. Mais en même temps, il ne faut pas être, hein, il faut pas être naïf. Il faut prévoir et calculer pour notre avenir, pour qu'est-ce qui est bien pour nous et pour notre religion et pour nos enfants. Donc, de préparer pour notre hajj aussi, ça fait partie des choses importantes. Donc, calculez pour ça, mes frères. Calculez pour ça. Hein, calculez ça dans vos comptes. Parce que quand vous faites vos comptes, vous calculez toutes les dépenses de l'année. Vous dites, ah, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer, j'ai la voiture, j'ai l'école, j'ai ci, j'ai ça, les enfants, hein, les vacances. Je vais me payer des petites vacances, hein, aller dans telle plage pour aller prendre du soleil. Au lieu d'aller faire tes vacances, là, dans ces pays-là, tu ne sais même pas si tu es en train de faire des péchés, hein? Et tu te mets sur Instagram, hein, tu te fais des photos sur la plage et tu envoies ça à tes amis. Il y a un hajj obligatoire qui est le cinquième pilier de l'islam. Jusqu'à quand tu vas rester un musulman qui a seulement quatre piliers? Quand est-ce que tu vas accomplir ce cinquième-là pour compléter ta religion? Donc les frères, soyez sérieux. Hein? Chaque année, vous partez en vacances dans vos pays, vous allez voir vos proches et votre famille. Mais vous oubliez la plus importante des obligations, qui est le hajj. Hein? Donc ça, ce n'est pas quelque chose à remettre à plus tard ou à négliger. Il y a beaucoup parmi les ulama qui ont mentionné que si tu as l'argent et la santé, c'est obligatoire maintenant de le faire. Tu n'as pas le droit de le remettre à une année plus tard.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.